Mademoiselle Carotide. Gus avait 10 ans et il se promenait toujours dans le quartier avec des ailes de fée. Roses et irisées, il avait commencé à les porter 4 ans plus tôt quand il avait joué à Peter Pan avec sa sœur pour la distraire des éternelles disputes de leurs parents. Son meilleur ami était aussi son voisin. Et ces deux-là passaient leur temps à s'échanger des petits mots grâce à un système de poulies qui passait d'une chambre du premier étage pour arriver à une autre. Tout le monde savait que le fil qui reliait les deux maisons n'était plus fait pour étendre le linge, mais pour que Gus et Royal puissent échanger sur leur mission top secrète. En vérité, la seule mission qu'ils avaient en tête était d'espionner la vieille Madame Plot, qui vivait de l'autre côté de la rue et que tout le monde prenait pour une sorcière. C'était devenu la légende du quartier, et depuis plus de 10 ans, on se contentait de l'appeler la vieille, sans vraiment se souvenir de son nom. Iphigénie Plot avait tout fait pour entretenir cette image de sorcière un peu folle. Une bonne vieille tactique, assez facile à entretenir pour éviter aux gens de s'approcher trop près de chez elle. D'abord, elle avait adopté un chat pour se sentir moins seule. Et puis, un autre, et un troisième. Jusqu'à ce que le 7e s'incruste un jour dans son jardin et se décide à y élire domicile puisque la nourriture était servie 3 fois par jour en quantité raisonnable. Mademoiselle Carotide avait sa préférence. Douce comme le miel de son pelage orange, toujours perchée sur son épaule, elle fallait pourtant quand quiconque d'autre s'en approchait. La couverture parfaite qui valait à la chatte un traitement de faveur. Mais ce n'était pas assez pour dissuader les bons samaritains de s'enquérir de sa santé et de ses besoins en briques de lait. Alors, Iphigénie s'était mise à habiller ses chats en fonction des saisons. Nœud papillon, bonnet à pompons et tout petit maillot de corps à l'effigie de Satan se promenaient régulièrement dans les maisons voisines. Et pour parfaire le tableau, elle s'était mise à parler toute seule. Chaque jour, après avoir distribué la première tournée de croquettes, elle se postait sur son perron avec une longue vue et une tasse de café parfumé. La vanille avait toujours eu sur elle un étrange pouvoir méditatif. Mademoiselle Carotide sur l'épaule, elle discutait avec un fantôme des actualités ou du temps qu'il faisait, concentrée sur les jardins environnants, hurlant sur les enfants qui tentaient de franchir la barrière ou de kidnapper un chat pour impressionner leurs copains. Et de temps à autre, à cause de son caractère insolent, elle criait sur Belzébuth, petite teigne grise qui lui ramenait des mulots et volatiles parfaitement innocents. S'il y avait bien une chose qu'Iphigénie abhorrait, c'était qu'on s'en prenne à plus petit que soi, y compris quand on était un chat, car l'instinct de chasseur n'était pas une excuse. Il n'avait fallu que quelques années pour que la rumeur se résigne à penser qu'elle avait perdu l'esprit quand son mari l'avait quittée. D'après la mère de Gus, M. Plot avait fait ses valises un dimanche après l'office de 11 heures pour rejoindre une femme plus jeune et plus docile. Désormais, il s'agissait plutôt de lui trouver une place à l'hospice. Mais comme personne n'osait s'en charger, parce que les gens bien préféraient se mêler de leurs affaires, on la laissait tranquille. Même le facteur la considérait comme un morceau du paysage, effrayant mais bucolique, auquel il s'était habitué. La haie entourant sa maison avait littéralement mangé la petite barrière autrefois blanche et parfaitement entretenue, et la cloche, pour sonner chez elle, ne fonctionnait plus depuis que les ronces et le jasmin l'avaient elle aussi envahi, débordant au-dessus du portail vermoulu. Pour son entrée en collège et pour prouver qu'il n'était plus un enfant malgré ses ailes de fée, Gus avait accepté de relever le défi. Il attraperait le chat de la vieille et le lui rendrait en main propre, franchissant ainsi le portail qu'aucune personne saine d'esprit n'avait franchi depuis une décennie. Même Cap avait écrit « Royal » sur un morceau arraché de son devoir de latin. Un samedi matin, alors que le mois de septembre étirait ses dernières lueurs d'été, Gus enfila ses ailes et descendit prévenir sa mère qu'il partait faire du skate avec Royal et qu'il rentrerait pour manger. Son ami le suivit de près, discret et silencieux, comme si sa nervosité lui avait coupé le sifflet. Grand seigneur, il avait décidé de l'aider en faisant le guet devant le portail, pendant que Gus passait sous la haie du côté droit de la maison. Pas très grand et plutôt dégourdi, Gus s'était faufilé sans problème. C'était l'heure idéale. Mademoiselle Carotide se goinfrait près d'un buisson, ignorant Belzébuth qui lui mettait des coups de patte pour avoir sa part. La vieille n'était pas encore à son poste. On l'entendait parler toute seule, derrière la fenêtre de sa cuisine, essuyant sa vaisselle avec des gestes aussi méticuleux que si sa vie en dépendait. « Je sais bien que t'aimes pas ça quand il reste des traces. Regarde, je m'applique. » « Oh, mais mon pauvre Eddie, tu vas pleurer dans pas longtemps. Fais pas le malin avec moi. Je sais bien que t'as peur quand il y a de l'orage. C'est pas moi qui me planquais sous la table à chaque fois que le bon Dieu s'énervait. Bah, tant pis pour toi. T'auras les jetons et puis c'est tout. » Gus tenta d'approcher du chat roux qui s'éloigna en lui jetant un regard courroucé. Il tendit l'oreille pour vérifier que ses tentatives d'approche n'avaient pas été entendues. Fort heureusement, la vieille n'avait pas réagi. En grande conversation avec elle-même, elle avait la voix de quelqu'un qui tente coûte que coûte d'avoir raison. Il avança d'un pas, en tendant la main, espérant que la chatte viendrait prendre une caresse comme elle le faisait pour sa maîtresse. Mais c'était peine perdue. Elle feula rageusement. Gus s'arrêta de nouveau pour vérifier qu'on ne l'avait pas repéré. Il allait reprendre l'opération kidnapping quand un sanglot le fit stopper net pour écouter plus sérieusement. La vieille s'était mise à pleurer.
« J'ai pas fait exprès, Eddie. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Mais tu comprends, c'est pas bien ce que t'as fait. Pas bien du tout. »
Gus prit conscience qu'il venait d'entrer par effraction dans la propriété d'une vieille dame pour lui enlever son chat. Folle ou pas, elle restait une vieille dame triste et seule, au point de s'inventer un ami imaginaire pour discuter avec elle. Plein de remords, il recula doucement pour sortir de chez elle. Tant pis pour Royal et ses défis de balle. Mais au moment où il s'engouffra dans la haie, un chat miaula si fort que la voix s'arrêta net et un bruit de porte retentit.
« Belzébuth ! » cria-t-elle. « Laisse-la tranquille, espèce de voyou !»
Ni une ni deux, Gus ressortit de la haie et agrippa le bras de Royal pour le traîner de force loin de la maison. Essoufflés, les deux amis s'étalèrent de tout leur long sur la pelouse, bien à l'abri chez Royal.
« Poule mouillée. »
« Oh, c'était nul ce défi. Moi, je raccroche. »
Et Gus rentra chez lui. Une fois dans sa chambre, il réalisa, horrifié, qu'il y avait laissé ses ailes. Iphigénie Plot se sortit remplir les gamelles de ses chats. En se penchant pour atteindre le petit bol blanc ébréché, elle remarqua quelque chose de brillant dans la haie. C'étaient les ailes de fée du petit blond du bout de la rue. Ça faisait longtemps que les gamins n'étaient pas venus fouiner. C'est le revers de la médaille. Quand on veut se faire passer pour une sorcière, on fait peur. Mais on attire aussi la curiosité des mômes qui veulent prouver à leurs copains qu'ils n'ont pas les pétoches. Il faudrait qu'elle trouve un moyen de le dissuader de revenir. Elle avait bien l'intention d'emporter son secret dans la tombe. 50 ans plus tôt, Iphigénie et Edmond Plot coulaient des jours heureux. Elle était institutrice. Il entraînait l'équipe de foot junior. Ils avaient un rituel immuable. Chaque samedi matin, pendant qu'Edmond était sur le terrain, Iphigénie en profitait pour aller faire un tour sur les quais. L'hiver, elle flânait en s'imaginant la vie des gens sur les péniches, et au printemps, c'était le jour du marché aux fleurs. Elle en ramenait toujours un bouquet pour que la cuisine embaume un parfum délicat jusqu'en milieu de semaine. C'était sa petite fenêtre à elle. Iphigénie aimait énormément son mari. Mais une demi-journée de liberté lui permettait de se réfugier dans son jardin secret. C'était un équilibre parfait. Un samedi d'été, alors qu'elle revenait de sa promenade, il lui avait pris l'envie d'acheter des sandwichs pour aller pique-niquer avec Edmond. Elle s'était donc rendue au stade pour lui faire la surprise. En arrivant, elle avait salué les derniers parents qui repartaient avec leurs petits sportifs. Pensant que son mari devait finir de ranger le matériel, elle s'était dirigée vers les vestiaires. Mais en poussant la porte, elle était tombée sur une scène qu'elle n'oublierait jamais. Edmond Plotz avait les mains posées sur un enfant d'à peine 8 ans, et il le caressait avec les mêmes gestes que ceux qu'il avait pour sa femme. Horrifiée, elle avait refermé la porte, incapable de réagir. Elle était rentrée comme un zombie, avait fermé la porte de chez elle, pleuré pendant quelques minutes, et réalisé que son mari lui avait toujours défendu d'approcher son sac d'entraînement. Elle s'était donc assise sur une chaise devant la table de la cuisine et avait patiemment attendu son retour. Comme toujours, elle lui avait fait couler un bain, dans lequel il l'avait plongé avec satisfaction. Puis elle avait fouillé dans le sac interdit pour y trouver des culottes. Les culottes d'au moins 4 pauvres mômes qui n'avaient pas 10 ans. Sans vraiment comprendre ce qu'elle faisait, Iphigénie Plotz avait eu l'impression de ne jamais avoir eu les idées si claires. Calmement, elle avait ramassé les sous-vêtements et les avait posés, un par un, sur le rebord de la baignoire, sans dire un mot. Sans un mot non plus, Edmond Plotz avait d'abord haussé les épaules, puis souri d'un air contrit. Ce jour-là, Iphigénie avait vu le diable. Sans trop savoir ni comment ni pourquoi, elle avait foncé droit sur lui, enragée par un trop-plein de dégoût et d'incompréhension. Mais son mari l'avait stoppé net, d'un coup de poing dans le sternum. Elle avait repris son souffle et recommencé à se jeter sur lui. Comprenant qu'il n'aurait droit ni au pardon ni à la discussion, Edmond l'avait tout simplement jeté dans la baignoire pour lui maintenir la tête sous l'eau. Les souvenirs étaient confus, surtout après 40 ans. Un peu comme si l'instinct de survie les avait supprimés de la tête d'Iphigénie. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait craint pour sa vie et réussi à sortir la tête de la baignoire. Pour le reste, il ne persistait qu'un trou noir et béant jusqu'au moment où elle avait repris conscience, allongée dans l'escalier, une poêle en fonte à la main, et le corps de son mari, couvert de sang, au milieu du couloir. Étrangement, elle n'avait pas paniqué. Assise sur une marche, elle avait réfléchi un long moment, respiré un grand coup, et décidé de transporter Edmond dans la cave en terre battue, bénédiction des constructions de l'époque. Méticuleuse et ordonnée, elle avait fermé les volets, récuré la maison à l'eau de Javel et attendu le temps réglementaire pour signaler sa disparition. Sans comprendre, encore aujourd'hui, comment son 1,54 m et ses 49 kilos lui avaient permis de venir à bout du problème. Le plus dur avait été de ne rien pouvoir avaler des jours durant sans tout rendre immédiatement. La violence du choc, la peur, la haine, la honte lui avaient submergé l'estomac. Par chance ou par miracle, c'était l'époque où les gendarmes se contentaient de poser quelques questions, compatissants et défaitistes. On se mariait jeune, on avait soif de liberté. La guerre était aussi passée par là. Et les époux frustrés qui prenaient la tangente étaient monnaie courante. Après un semblant d'enquête, ils en conclurent que M. Edmond Plotz avait quitté le domicile un dimanche de juillet pour acheter du lait et n'était jamais revenu. N'ayant jamais su quels enfants avaient subi les horreurs de ce gros dégueulasse, Iphigénie se punissait encore de n'avoir pas pu les aider. Elle restait enfermée depuis plusieurs décennies, hurlant sur des chats, et parlant à Edmond depuis son perron, une longue vue à la main, soulagée que plus personne n'ait envie de l'approcher. Elle avait pourtant recouvert le sol de la cave avec des litres de béton, puis rempli la pièce avec des dizaines de meubles et d'objets inutiles, histoire de mettre encore un peu plus de barrières entre l'entraîneur Plotz et le monde extérieur. Le premier lundi d'octobre, alors qu'il allait rejoindre Royal sur le chemin de l'école, Gus s'arrêta net au milieu du trottoir. Ballotté par le vent, ses ailes de fée pendaient à côté d'un morceau de papier scotché à la clôture de son jardin. « Je voulais les brûler. Tu peux dire merci à Mademoiselle Carotide. » Il frissonna légèrement, déglutit bruyamment, puis décrocha ses ailes. Il avait hésité à les ramener dans sa chambre, car l'école n'acceptait pas qu'il les apporte. Mais ce jour-là, il avait finalement décidé de les enfiler, un peu pour dire à la vieille qu'il n'avait pas peur d'elle, un peu aussi pour lui demander pardon. À cette heure-ci, elle était sûrement déjà postée sur son perron, sa longue vue à la main, son chat sur les épaules et son fantôme à côté d'elle.